France Inter.
Aujourd'hui, le monde secret des mousses, raconté par
Olivier Liron, écrivain et grand amoureux des mousses.
France Inter, La Terre au carré, Mathieu Vidard.
Je viens de la nuit des temps, je suis de partout, de tous les lieux, les forêts, les cascades, les steppes, la glace des pôles, les tourbières, je suis la fille de la lumière et de l'eau, les brins minuscules de mon corps sont aussi beaux que la chevelure des comètes et mille fois j'ai fait face aux tourments de la vie, mille fois j'ai survécu aux catastrophes. Mes sœurs et moi avons la couleur de l'espoir, je suis vaste comme la Voie lactée et les galaxies, le vivant se baigne dans l'eau verte de mes feuilles, je suis la vie à l'état de soleil vert, je suis infime, infinitésimale, et pourtant je suis relié à l'ensemble du monde végétal. Et néanmoins, je ne suis ni arbre, ni fougère, ni lichen, ni algue. J'ai pour amis les nuages et les nues tout là-haut dans le ciel. Je suis issu de la même révolte, de l'insoumission et de la liberté. Je suis l'errance enracinée, l'ancrage sans racine. Je suis l'arc-en-ciel qui s'arc-boute à sa beauté. Je suis la singularité qui danse. Je suis la sensibilité qui crée. Je suis une mousse.
La mousse est le premier végétal qui est apparu sur Terre et elle est encore présente aujourd'hui. Son rôle, c'est d'assainir l'espace pour que d'autres plantes puissent pousser. Elle va attirer les nutriments dont elle a besoin et la grande chance qu'on a, c'est que ces nutriments dont elle a besoin, c'est des polluants.
La voix de l'entrepreneur Joss Leblanc dans l'émission Le Monde de Jamy en 2022. Bonjour Olivier Liron.
Bonjour Mathieu.
Les lignes que je viens de lire il y a quelques secondes sont dans le prologue de votre ouvrage Éloge des mousses qui a été publié en avril dernier aux éditions Rivage. Les spécialistes des mousses s'appellent les briologues. L'êtes-vous devenu, vous, briologue au fil du temps, vous qui avez un parcours plutôt dans les lettres, la musique et la poésie ?
Oui, oui, je suis un littéraire au départ. J'ai eu la chance d'être enfant initié à la beauté des mousses. J'ai une mère qui est une grande naturaliste et qui a toujours été passionnée, notamment de botanique. Et donc, enfant, j'allais dans la forêt, c'était des moments privilégiés, un petit peu comme des chasses au trésor. On cherchait les mousses hein, qu'on peut, les plus communes qu'on peut trouver dans les forêts. Par exemple, une petite mousse qui s'appelle le dicrane, voilà, ou le polytrichum formosum. Alors, ouais. Les noms latins étaient marrants, c'était comme un petit peu des sésames, des formules magiques. Et donc le but était de chercher des mousses comme une carte au trésor. Et ce qui ensuite, je pense, a fait que j'ai eu envie d'écrire ce livre, Éloge des mousses, c'est vrai que c'est ma formation littéraire. Quoi. Je dirais que je suis plutôt un littéraire et dont j'ai beaucoup lu des poètes comme Walt Whitman, l'idée qu'on pouvait écrire des poèmes qui soient comme des brins d'herbe, qu'on puisse parler du végétal, du monde vivant en général. Et puis je me suis dit que ça me donnait envie comme ça de m'intéresser de manière plus scientifique à ces végétaux. Et donc, pourquoi les mousses ? Bah, je pense, vous l'avez dit dans l'introduction, c'est que ce sont des plantes qui poussent comme ça, sous nos yeux, qui sont presque invisibles. Et en même temps, on parle beaucoup du végétal depuis quelques années. Oui. On s'intéresse très peu aux mousses. Alors que ce sont des plantes qui sont apparues sur Terre autour de il y a 400 ou 450 millions d'années. Oui. Donc c'est inimaginable, c'est plus ancien que les plantes à fleurs que
c'est
l'on
ça,
connaît
mais
bien.
Mais c'est le début du règne végétal quasiment alors.
Ah bah c'est carrément la nuit des temps. Il faut imaginer qu'il y a plus de centaines de millions d'années, elles étaient au Dévonien, comme ça, sur des paysages dépouillés à l'extrême, quelques centimètres d'épaisseur seulement. Elles ont traversé toutes les crises d'extinction, comme ça, du vivant.
Et elles sont toujours là.
Et elles sont toujours là, donc il faut les imaginer au Carbonifère, avec les fougères arborescentes, jusqu'à côtoyer les corolles colorées des plantes à fleurs ensuite, et donc elles sont encore aujourd'hui sous nos yeux. Et on s'y intéresse en même temps de plus en plus, hein, grâce justement aux briologues, à des scientifiques que j'ai la chance de lire, etc.
Et donc vous l'êtes devenu vous-même
ou pas ? Je suis devenu, non, de manière très modeste, en tout cas, je pense qu'il y a vraiment cette idée d'être naturaliste, c'est-à-dire moi je suis un grand auditeur de votre émission, et donc c'est vrai, j'aime m'intéresser énormément, j'ai une curiosité encyclopédique, j'aime beaucoup m'intéresser à ces sujets-là, et je pense que la science rejoint beaucoup la poésie dans cette manière d'étonnement, de recherche, de comprendre ce qui nous entoure et partage avec des moyens différents. Cet émerveillement, quoi, cette curiosité vraiment, et ça m'a amené un petit peu à être, un peu plus calé sur ce sujet,
ouais.
Et aussi de réfléchir à des enjeux d'écologie aussi, et
à
quel point ces plantes sont extrêmement importantes et mobilisent des enjeux colossaux en termes d'écologie, et donc c'est notre avenir aussi commun.
Olivier Liron, je voudrais revenir juste sur une phrase du prologue qui m'a interpellé lorsque cette mousse s'exprime et qu'elle nous dit « Je suis issu de la même révolte, de l'insoumission et de la liberté ». De quelle révolte, de quelle insoumission parle cette mousse ?
C'est évidemment une interprétation, mais moi je trouve ça extrêmement intéressant que ces plantes soient aussi résistantes. Elles sont capables de s'adapter à des conditions climatiques extrêmes. Et je crois que, en fréquentant aussi des spécialistes des mousses, des bryologues justement, ouais. J'ai pu échanger avec Catherine Reb, par exemple, qui est une bryologue remarquable. Il y a cette idée quand même d'insoumission, de faire un petit pas de côté par rapport à ce qu'on regarde habituellement dans le monde. Ça, c'est aussi quelque chose qui est assez fort, je pense, quand on est dans une démarche de création. C'est-à-dire que, bah tiens, si on faisait un petit pas de côté, si on cadrait un petit peu le réel autrement,
ouais.
Et si on commençait à s'intéresser à des organismes qui, jusque-là, sont relativement invisibles, relativement oubliés. Alors, j'en parle dans le livre, qui développe de manière beaucoup plus documentée tout ça, et j'essaie de me demander pourquoi est-ce qu'on ne s'y est pas intéressé. Une des raisons, je pense, c'est que les noms latins, c'est pas très facile à retenir, contrairement à d'autres...
ni à prononcer,
à d'autres, ouais. À d'autres plantes à fleurs. On a, par exemple, au Japon, des noms communs qui sont donnés aux mousses. Au Canada aussi, j'en parle, on est en train de chercher à donner des noms donc vernaculaires communs aux mousses, par exemple la gorgone des forêts, la mélusine splendide, l'ondine à ventre violet, etc. Et donc ça, c'est, je trouve, ça permet aussi d'intégrer ces plantes un peu dans notre univers familier. Mais c'est vrai que ce sont des plantes qui n'ont jamais été, jusqu'à très récemment, considérées comme utiles. Et donc c'est vrai que l'histoire de la botanique aussi, jusque assez récemment, elle s'intéressait quand même... Par exemple, si on prend les herbiers, à partir du XVIe siècle, en Occident, il commence à avoir des herbiers comme ça, qui s'intéressaient aux plantes. Mais les mousses, il y avait peut-être une ou deux mousses dans ces herbiers, celui de Fuchs, par exemple. Et puis après, à partir du XVIIIe, il y a un premier grand ouvrage de référence, qui était un ouvrage qui a été écrit par Dillenius, qui était un savant de l'époque, et qui a commencé, effectivement, là, pour le coup, à vraiment... avoir une démarche de s'intéresser aux mousses et de bryologie. Puis on a des gens comme Jean-Jacques Rousseau, par exemple, qui était passionné par les mousses, et donc qui a constitué une sorte d'herbier de mousses qu'on peut encore consulter en Suisse. Et Jean-Jacques Rousseau disait... qu'on m'enferme à la Bastille pourvu qu'on me laisse des mousses.
C'est ça.
Oui, mais comme ça, quelques illuminés, et il me semble qu'il y a une forme de sécession, quoi, de se dire, tiens, si on regardait le monde un petit peu autrement, et si on allait s'intéresser à ce qui, en réalité, n'est pas du tout considéré. Quoi.
Mais même en prison, Jean-Jacques Rousseau aurait pu voir des mousses sur les murs de sa prison.
Tout à fait, c'est pas du tout improbable. C'est pas du tout improbable.
Puisqu'effectivement, ce monde discret colonise à la fois nos murs, nos arbres, nos rochers. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ce terme de coloniser. Mais en tout cas, il est présent dans bon nombre d'endroits et vous leur rendez grand hommage avec cet éloge des mousses. Vous nous invitez donc à lever les yeux, plutôt à les baisser vers ce monde effectivement très discret. Un monde à part entière. Qu'est-ce que scientifiquement, d'ailleurs, on désigne exactement quand on parle de mousse, Olivier Liron ?
Alors, ce qu'on appelle les bryophytes, ça regroupe les mousses proprement dites, et aussi des végétaux, des organismes qui sont très intéressants, qui sont les hépatiques,
ouais.
Et les anthocérotes, qui sont
très
aussi
jolis.
Extrêmement passionnants. Les hépatiques, ce sont de petites lames comme ça, souvent, qui poussent. Alors moi, je me suis surtout intéressé à ce qu'on appelle communément les mousses. Il y a à peu près, je crois, un peu plus de 1000 espèces en France, quand même. Donc c'est
et en tout, d'ailleurs, il y a combien d'espèces ? Parce que c'est hallucinant.
En tout, je crois qu'on s'accorde à dire qu'il y a plus de 23 000 espèces connues déjà.
Quand même.
C'est-à-dire que moi, c'est vrai qu'au début, je me disais, la mousse, quoi. C'est-à-dire que c'est la mousse, il n'y a pas vraiment de...
C'est ça.
Et j'étais très ignorant. Et je me suis rendu compte qu'il y avait évidemment des milliers d'espèces et que c'était absolument fascinant de les étudier une par une. Alors c'est vrai qu'elles ont eu ce rôle d'édification de sol, puisque ça rejoint ce qu'on disait au départ, on a des continents comme ça qui sont rocheux, extrêmement désertiques, et donc les mousses vont peu à peu habiter, rendre ce monde habitable par l'édification d'un sol. Donc elles ont eu un rôle évidemment incroyable, puisqu'on imagine que tous les écosystèmes végétaux qu'on connaît aujourd'hui. Oui. S'il n'y avait pas eu ces premières plantes terrestres qui ont été les mousses, hein, il y avait des algues avant, il y avait d'autres choses, mais des premières plantes terrestres, ce sont les mousses. Donc il y a quelque chose comme ça, ce sont un petit peu des êtres qui nous dépassent infiniment dans leur durée. Et ça, c'est fascinant parce que il me semble que c'est une méditation sur le temps aussi. On est comme ça, on est pris dans une durée qui nous dépasse infiniment. Et c'est vrai que vous pouvez avoir, par exemple, sur des tombes, vous pouvez avoir comme ça, parfois un petit bout de mousse qui nous rappelle comme une vanité en peinture, ouais, que nous sommes bien peu de choses. Et donc la mousse est à la fois incroyablement simple par son organisation végétale.
Alors justement, du point de vue végétal, voilà, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a pas de racines dans les mousses ?
Non, il n'y a ni racines,
y a pas de vaisseau.
Ni vaisseau sanguin, comme chez les plantes.
Il n'y a pas de fleurs ?
Et pas de graines. Donc ouais, effectivement, c'est une organisation extrêmement simple. Et en même temps, j'essaie dans le livre d'expliquer de manière vraiment très, très précise comment elles fonctionnent, comment elles s'adaptent, comment elles se reproduisent, comment elles résistent à tout un tas de pressions extérieures. Et donc, il y a quelque chose comme ça d'assez prodigieux. Ces plantes ont des pouvoirs. Alors, il ne s'agit pas de faire la liste. Souvent, quand on parle du monde vivant, on a quels sont les records de ceci, de cela. Il ne s'agit pas de ça, mais il faut quand même imaginer que ces plantes sont incroyablement humbles. Vous avez cette petite mousse qui s'appelle Corysodontium, qui a été découverte dans le pergélisol antarctique. Oui. Donc, ça a été très relayé quand
même. Donc, le sol gelé.
Voilà. Et donc, on a découvert cette petite mousse. Il y a une équipe de chercheurs au sud-est du Cap Horn, voilà, sur une petite île précisément. Et ils se sont rendus compte qu'en la remettant dans des conditions de lumière et de température adéquates, elle a repris vie, en quelque sorte. C'est ce qu'on appelle la reviviscence de certaines mousses. Donc c'est assez fabuleux de se dire que cette petite mousse, elle avait vécu déjà au moment de l'Empire romain à peu près, ouais, la fin de l'Empire romain, et puis elle était encore là aujourd'hui, 1500 ans plus tard. Et c'est vrai que cette durée absolument sidérante et à la fois cette fragilité est assez bouleversante. Ouais. Voilà.
Vous parlez de cette simplicité et cette humilité exceptionnelle, hein, justement, sur leur morphologie, hein, qui, vous venez de le décrire, est vraiment d'une extrême sobriété. Et c'est vrai qu'on a du mal à imaginer toute cette diversité de mousses dans la forêt, puisque vous parliez de la forêt tout à l'heure. C'est la forêt de Fontainebleau que vous évoquiez ou pas ?
Oui, moi j'ai grandi près de la forêt de Fontainebleau, donc c'est tout à fait accessible. Ah ouais. C'est pas au bout du monde, et pourtant, on a des choses qui sont très belles. La forêt de Fontainebleau, elle est chaotique, il y a des chaos de grès, et donc les mousses ont cicatrisé un petit peu ces béances-là, ces aspérités, et elles tissent, c'est une image évidemment, mais une sorte de grand manteau comme ça, de douceur sur la forêt, et on peut les observer. C'est vraiment ce que je disais au départ, un émerveillement que tout le monde peut partager. Moi, au départ, je n'étais pas du tout spécialiste, ouais, et j'étais même pas très bon en SVT quand j'étais enfant, quoi. Donc c'est vrai que c'était vraiment l'idée qu'il y avait un mystère, qu'il y avait une émotion. Je pense d'ailleurs que la science vraiment gagne à, comment dire, que l'enseignement scientifique, en tout cas, doit aussi intégrer cette émotion-là. Et ce que vous faites très bien, d'ailleurs, c'est de montrer que ça peut être passionnant de s'intéresser aux étoiles, à l'infiniment grand ou à l'infiniment petit. Et quand on prend une petite loupe, tout le monde peut le faire, on prend une petite loupe et on commence à regarder des brins de mousse, c'est un paysage, quoi. C'est un kaléidoscope absolument magique. Et cette magie-là, qui tient de l'observation des lumières sur la mousse, des couleurs, de leur forme, il est vraiment gratuit, quoi. Donc pourquoi ne pas en profiter ? Depuis que le livre est sorti, je reçois plein de messages de gens qui me disent « Moi, je m'intéressais absolument pas aux plantes, et encore moins aux mousses, mais je prends une pause maintenant, et je m'arrête, et je les regarde. » Et donc je crois que, voilà, sans être un grand spécialiste, on peut trouver à compagnonner avec ces plantes.
La Terre au carré, Mathieu Vidard sur France Inter.
Sans loupe, on est un peu perdu en tant que bryologue, parce que ce moyen optique permet d'observer des caractéristiques comme des petites dents sur la marge des feuilles, la présence d'une nervure. Ces petits détails anatomiques qui sont peut-être insignifiants sont en fait d'un grand intérêt pour commencer à proposer une détermination sur le terrain et se dire, tiens, cette espèce présente peut-être un intérêt, je vais la collecter puis je vais aller l'examiner au laboratoire. Je suis intéressé par la botanique depuis l'âge de 8 ans et puis peu à peu, je me suis intéressé aux bryophytes parce que c'est des végétaux mal connus qui ont très peu d'adeptes en France et on peut faire des découvertes assez extraordinaires, peut-être plus facilement que chez les plantes à fleurs. C'est un peu de l'ordre de l'aventure et du magique peut-être.
Olivier Liron, vous publiez aux éditions Rivage Éloge des mousses. À l'instant, nous entendions la voix de Vincent Huguenot, qui est donc bryologue, spécialiste des mousses, et qui nous dit qu'il faut une loupe pour pouvoir bien observer les mousses. Vous le confirmez ?
Oui, j'ai beaucoup de fascination et d'admiration pour les femmes et les hommes bryologues que j'ai pu rencontrer. Et c'est souvent, je dirais pas des sociétés secrètes, mais enfin, il y a quelque chose de génial. On peut faire d'ailleurs une sortie mousse, hein, on peut tout à fait un dimanche matin s'inscrire. Ouais. Il y a aujourd'hui des initiations comme ça à la bryologie que moi j'ai pu suivre. Il n'y a pas besoin d'avoir des compétences énormes. Et c'est vrai que c'est assez dingue et c'était très très bien dit là dans l'extrait de Vincent Huguenot, c'est-à-dire que il y a une sorte de magie comme ça à aller un petit peu avec sa loupe se pencher, regarder, essayer de voir, ah tiens, quelle est cette plante, quelle est cette... vous pouvez très vite reconnaître les principales mousses, par exemple dans les bois, dans les sous-bois, il y en a qui sont très très belles, vraiment c'est vraiment un émerveillement visuel, d'abord presque enfantin, dont vous avez les petits coussinets de Leucobrium. Alors c'est une mousse qui fait des petits hérissons comme ça, qui est incroyable. Et vous avez des merveilles quoi, à portée de main. Il y a des revues aussi de bryologie spécialisées et vous pouvez avoir des enquêtes comme ça pour déterminer. C'est un peu comme un jeu. Je pense qu'il y a vraiment un amusement dans la démarche scientifique.
Vous êtes abonné, vous, à ces revues?
Ah oui, je suis abonné à un certain nombre de revues.
Ça m'étonne pas.
Et par exemple, on peut se demander effectivement si telle espèce qu'on a trouvée, est-ce que c'est une nouvelle espèce ou est-ce que c'est simplement une mutation d'un taxon? C'est-à-dire qu'effectivement, est-ce que c'est juste une mutation stationnelle? Est-ce que c'est une nouvelle espèce? Donc, on enquête. Alors, il y a comme ça une joie et vraiment une dimension très ludique, en fait, de la démarche chez des botanistes.
Donc, en tout cas, ça s'entend dans votre voix.
Ouais.
Et alors, justement, ces spécialistes des mousses, donc les bryologues comme Vincent Huguenot, on l'entendait d'ailleurs extrait d'un documentaire d'Arte qui s'appelle Sa Majesté les mousses. Vous me disiez, hors antenne, que ce sont des gens discrets, mais discrets aussi de leur savoir, de leur connaissance.
Je ne m'aventurerai pas à dire qu'ils sont forcément tous et toutes discrets, mais je trouve qu'il y a une forme de secret. C'était très bien dit dans l'extrait. Et ces secrets de fabrication des mousses, les secrets de leur fonctionnement, leurs facultés qui sont absolument incroyables. Et c'est vrai que le fait de s'y intéresser, je pense, c'est qu'on a le goût du secret, on a le goût d'une forme de... peut-être de sécession, encore une fois, de dissidence, presque, de se dire « Ah, je vais pas m'intéresser tout à fait à la même chose que les autres ». Ça, je pense que c'est aussi intéressant dans une démarche littéraire. Est-ce qu'on pourrait effectivement envisager de parler du réel d'une manière un peu différente? Parce qu'il y a beaucoup d'écrivains, de poètes, poétesses qui vont s'intéresser au monde vivant. Alors, pourquoi choisir les mousses? Qu'est-ce que ça raconte? Essayer de faire apparaître quelque chose qu'on ne prenait pas en compte avant. Donner à voir le monde différemment. Ça, c'est quelque chose que les scientifiques et les artistes, et de manière générale, toutes les personnes qui ont une curiosité comme ça, peuvent partager. Il y a une grande beauté, je trouve, dans la démarche des naturalistes. Alors, on peut s'intéresser aussi aux oiseaux, à plein d'autres choses. Mais parmi les botanistes, ceux qui s'intéressent aux mousses, celles et ceux qui s'intéressent aux mousses, me semblent avoir le goût du secret. Mais c'est une hypothèse complètement...
C'est la vôtre. Vous décrivez avec beaucoup de poésie, Olivier Liron, la manière dont les mousses retiennent et redistribuent l'eau. Comment une mousse boit-elle sans avoir de racines, justement ?
Bah oui, c'est fabuleux. Donc, elles ont des cellules comme ça qui sont poreuses. Je prends l'exemple, par exemple, des tourbières. Alors, vous avez un groupe de mousses très important qui sont les sphaignes.
Ouais.
Et les sphaignes vont construire comme ça, ces habitats absolument extraordinaires que sont les tourbières, qui aujourd'hui représentent des enjeux écologiques fondamentaux. On commence à en parler de plus en plus.
En tant que puits de carbone, par exemple.
Notamment parce que je crois, j'espère ne pas me tromper dans le chiffre, que c'est plus d'un tiers du carbone qui est présent dans le sol. Il est présent dans les tourbières, qui présentent, je crois, pourtant 3% seulement. Donc, elles accumulent du carbone et notamment du méthane. C'est-à-dire, c'est un gaz qui est incroyablement réchauffant. Et alors, les sphaignes, donc, elles ont quand même une manière incroyable de fonctionner, puisqu'elles vont être finalement la partie apicale, donc le sommet de la plante, si vous voulez, va se développer, et la base de la plante se décompose, et donc produit de la tourbe. Donc elle va continuer à pousser comme ça, si rien ne la dérange, elle peut continuer comme ça sur des dizaines de milliers d'années, et très lentement, va se construire, s'édifier ce sol. C'est vrai que quand on va chercher son terreau au supermarché, même si c'est un terreau bio, et que c'est à base de tourbe, bon, il faut imaginer quand même qu'on est en train de détruire, forcément de participer à la destruction d'un écosystème qui a mis des dizaines, des milliers d'années pour se construire. Et donc, le lien à l'eau, évidemment, chez les mousses, et pour survivre, elles doivent capter et retenir l'eau.
Donc par capillarité, en fait, c'est
alors,
ça.
Elles ont par exemple des techniques, notamment les mousses qui sont xérophytes, donc qui poussent dans les déserts, dans les endroits arides. Par exemple, vous en avez certaines qui vont jouer sur l'effet albédo, par exemple, c'est-à-dire le fait de renvoyer la lumière du soleil. Donc elles font comme certaines maisons, en Andalousie, par exemple.
Un pouvoir réfléchissant.
Voilà, ça réfléchit la lumière. Ouais. Donc elles ont tout un tas de techniques pour préserver ce trésor qu'est l'eau. Et ça aussi, je pense que c'est très intéressant par rapport à un enjeu aussi important qu'est l'eau.
Vous évoquez un nuancier de mousse comme un peintre parlerait de ses pigments, Olivier Liron. Quelle couleur vous voyez lorsque vous fermez les yeux et que vous pensez à des mousses, vous ?
Bah, évidemment, on imagine que les mousses sont une sorte de grande étendue verte. Et en réalité, vous avez des mousses qui sont couleur rose, turquoise, zinzolin, jaune, violet, etc. Et c'est une merveille. Moi, j'ai l'impression, dans une forêt, quand vous avez un grand tapis de mousse comme ça, que c'est une forme de champagne qui coule sur le sol des forêts.
Ouais.
Et c'est drôle d'ailleurs parce qu'on imagine la mousse du champagne. On est vraiment dans une sorte de grande douceur qui recouvre. On est restés tous un peu moelleux au fond, et qu'il y a une possibilité concrète de la douceur qui est matérialisée. Je ne dis pas que les mousses elles-mêmes ont des sentiments, je ne procède pas comme ça par anthropomorphisme, mais j'aime bien quand même l'idée que la poésie, les mythes, les images nous donnent envie de s'y intéresser.
Et donc il faut réveiller la petite part de mousse qu'il y a en nous.
Je pense que les mousses sont une image.
On en a besoin aussi pour lutter contre la violence du monde qui nous entoure.
Oui, sont une image exactement de notre fragilité et en même temps de notre capacité de résistance. Et donc je pense que c'est effectivement une très bonne image, je dirais, de nos problématiques. C'est-à-dire que ce qui fait le succès des mousses, c'est justement tout ce qui nous manque, en fait. C'est la simplicité, c'est l'absence de sophistication, c'est la lenteur, c'est le rapport au temps, c'est la lenteur. Et c'est évidemment, aujourd'hui, moi je milite de manière, en plaisantant à moitié, pour une sorte de moussothérapie, c'est-à-dire, comme il y a des gens qui viennent de la ville pour faire de la sylvothérapie au contact des arbres, ce qui est une très bonne idée d'ailleurs, on peut tout à fait prendre le temps de s'arrêter parmi les mousses et de couper un peu le flux extrêmement anxiogène de nos vies, de nos rythmes. Et donc, compagnonner avec les mousses, passer, comme je l'ai fait, 5, 6, 7 ans à regarder des mousses, bah moi qui ne suis pas du tout quelqu'un de méditatif et de zen au départ, je pense que ça m'a un petit peu soigné et appris à ralentir, à respirer, à vraiment regarder de tous nos yeux le monde vivant qui est autour de nous. Parce que je pense que le meilleur moyen pour déclencher la lutte écologique, évidemment, regarder les mousses ne suffit pas, mais je pense que ça permet effectivement de contempler comme ça la beauté du monde qui nous entoure, les infinis visages qui sont ceux du vivant. Je pense que c'est le meilleur moyen de créer des vocations écologiques. Et voilà, je pense que c'est une manière un petit peu de nous émerveiller encore de ce qui est autour de nous.
Est-ce que vous avez osé marcher pieds nus dans les mousses, Olivier Liron ? Quand on les aime autant que vous, est-ce qu'on s'offre cette
audace ? Il faut savoir quand même que les mousses ont une capacité de résister. Si vous roulez en VTT sur une mousse, si par malheur vous faites ce genre de choses, il faut savoir que la mousse a quand même la capacité de se régénérer, etc. Bon, j'essaye quand même de faire attention, effectivement, où je pose les pieds, mais vous pouvez tout à fait vous allonger si vous avez envie, ou avoir un rapport vraiment sensoriel. Il faut vraiment, je pense que la base de l'écologie, c'est vraiment le sensible, Il faut vraiment essayer de restaurer au maximum le lien sensible qu'on a avec le réel, et d'ailleurs l'art, la poésie, au final c'est ça, c'est l'art de la beauté et du réel. Donc moi j'aime bien l'idée que le regard peut s'arrêter comme ça sur ces surfaces mystérieuses, et que dans les mousses sommeille quelque chose. C'est ce que le poète Fernando Pessoa appelle le sommeil du mystère en surface. C'est-à-dire qu'il y a un secret, il y a une magie, et si on s'y attarde, si on pose les yeux un petit peu là-dessus, on est envahi par une sorte de grande joie. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a un caractère presque sacré dans ce qui nous entoure. C'est quelque chose que j'ai en moi depuis longtemps. Et je crois que c'est pas étonnant que dans certaines, effectivement, spiritualités, les mousses puissent comme ça avoir un rôle.
On en parlera du Japon, d'ailleurs, tout à l'heure, parce que c'est un pays où, justement, on est beaucoup en contact, en dialogue avec les mousses. On entend dire souvent qu'elles indiquent le nord, les mousses, sur les troncs d'arbres. Est-ce que c'est vrai, ça, ou pas ? Ou c'est une idée reçue ?
Alors, c'est une idée reçue, parce qu'en réalité, elles poussent aux endroits d'humidité optimale. Alors, c'est vrai que La plupart du temps, ça peut être le nord, mais des bryologues ont bien montré que, en réalité, elles peuvent pousser selon l'ensoleillement et selon la configuration du lieu. Elles ne poussent pas forcément au nord. Donc, si vous cherchez le pôle nord ou si vous êtes perdu, si vous n'avez pas Mappy ou Waze, faites attention quand même parce que les mousses ne poussent pas forcément au nord des arbres. Voilà. Donc ça, les bryologues en général le rappellent bien. Ça fait partie des idées reçues.
Alors même les villes ne font pas peur aux mousses. Hein. Vous citez la mousse d'argent, c'est ça qui colonise les trottoirs et les murets. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette mousse ?
Ah, vous avez effectivement beaucoup de biodiversité en ville. Hein. Ça commence à être étudié énormément.
Oui.
Et vous avez comme ça dans les interstices des trottoirs cette mousse Bryum argenteum. Mais vous avez comme ça tout un tas de mousses que vous pouvez effectivement. Mais on le voit bien quand on se balade. Elles sont sous nos yeux, mais simplement il faut accepter de s'arrêter deux minutes et de couper le flux.
Ouais.
Et donc, j'aime bien cette idée que les mousses sont quelque chose de très simple. Moi, il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué quand j'ai commencé à écrire. C'était une phrase du poète Francis Ponge qui dit que le plus simple n'a pas été dit. C'est-à-dire, on peut écrire de manière extrêmement simple, mais surtout, il y a quelque chose parfois comme ça qui est autour de nous, dans le réel, dans l'infraordinaire, vraiment dans ce qui nous entoure, qui peut être extrêmement beau et qui souvent nous échappe. Moi, j'ai envie qu'aujourd'hui, on remette un petit peu, ça fait partie aussi de tout un courant que vous évoquez souvent, qui est un courant antispéciste, les êtres vivants, que ce soit les plantes, que ce soit les animaux, ont la même importance que l'être humain, on fait partie du même monde vivant, du même caravansérail. Et je dirais que c'est une manière de chercher un petit peu à échanger, à méditer et à apprendre. Aussi, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre des mousses sur nous-mêmes.
Olivier Liron, éloge des mousses chez Rivage. Vous êtes notre invité aujourd'hui dans la Terre au Carré.
France Inter. La Terre au Carré.
Il existe un pays où les mousses sont célébrées comme des demi-dieux. Les Japonais les regardent comme un occidental regarde une constellation d'étoiles, avec le même vertige et la même dimension surnaturelle. Ici, on vénère les esprits qui incarnent les forces de la nature, comme le vent, les rivières, les animaux ou les mousses. On les laisse recouvrir les lieux sacrés en évitant de les déranger.
Extrait du documentaire Sa Majesté les Mousses d'Arte en 2023. Olivier Liron, vous qui êtes notre invité avec cet ouvrage Éloge des Mousses aux éditions Rivage, et ce livre qui nous emmène justement au Japon où la mousse, donc on l'entend, est vénérée en fait. Hein. Il y a un statut particulier. Qu'est-ce que vous avez découvert, vous, dans ces jardins moussus ?
Bah, c'est absolument sublime, c'est somptueux. Et en même temps, ce qui est intéressant, je lisais récemment un article d'un spécialiste du Japon qui expliquait que les mousses, en réalité, sont arrivées dans ces grands jardins des temples japonais, à Kyoto notamment, à la fin du 19e siècle. Il y a eu des inondations, donc c'est relativement récent. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les moines ont décidé de conserver ces mousses, en fait, de faire avec, de les accepter et d'en faire des sanctuaires aujourd'hui absolument incroyables. Donc, immédiatement, on associe les mousses au Japon. Et en même temps, ce que j'essaye souvent de dire, c'est que le documentaire que vous passiez montre aussi des mousses en Islande. On a des mousses, en fait, partout.
Oui, c'est ça.
À l'équateur, dans les déserts, dans
les rues,
en haute montagne. Elles vivent très bien, comme ça, sous la neige. Donc, dans tous les types d'écosystèmes, vous pouvez retrouver des mousses.
Mais les liens entre humains et mousses sont très forts au Japon.
Au Japon, ils sont très, très forts. Et ce que j'essaye de ce livre est vraiment une invitation à faire découvrir les mousses. Et d'ailleurs, je remercie l'éditeur Rivage parce que finalement, c'est aussi courageux d'accompagner un livre, hein, parce qu'il faut plusieurs personnes pour faire un livre. Donc d'accompagner comme ça ce discours sur les mousses ou cette rêverie sur les mousses.
Oui.
Et on peut en trouver effectivement chez nous. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait dans votre jardin avoir une petite caisse avec un peu d'eau. Puis, mais voilà, garder éventuellement si vous avez déjà un jardin des mousses chez vous. Donc on peut, entre guillemets, tout à fait être amoureux des mousses. tous et vivre en Occident.
Comme
en, tout cas.
En forêt de Fontainebleau,
oh,
par
oui,
exemple.
En forêt, mais il y a dans les Vosges notamment. Dans les Vosges, vous avez des tourbières absolument incroyables.
Absolument, ouais.
Donc, si vous avez la chance de voyager dans d'autres pays, évidemment, c'est intéressant. Dans certaines régions d'Espagne aussi, qui sont absolument fabuleuses. Donc, c'est pas forcément inaccessible, les mousses. C'est pas exotique. C'est vraiment quelque chose qui est accessible à tous. Je dirais qu'il est presque démocratique. Et peut-être que c'est plus simple. Si on veut, par exemple, s'intéresser aux oiseaux exotiques, c'est plus compliqué, quoi. Il faut quand même aller dans certains endroits. Alors que là, évidemment, vous avez tout un tas de mousses partout. Mais
donc, vous avez les émotions et
oui,
la science à
voilà,
portée de main.
C'est, exactement.
C'est ça aussi ce que vous
c'est
nous
ça
racontez.
Qui m'intéresse, c'est que finalement, c'est quelque chose qui est vraiment autour de nous et on peut assez facilement s'émerveiller. Donc oui, évidemment, si on a la chance d'aller voir les grands temples au Japon, il faut absolument y aller. Et puis, vous pouvez aussi tout à fait tout simplement faire une pause. Moi, quand le livre est sorti il y a quelques mois, j'ai commencé à recevoir tout un tas de messages, parfois des scientifiques qui me disaient que ça donnait envie de les découvrir.
Le Japon vous a confirmé, Olivier Liron, que la contemplation pouvait être une forme d'écologie, justement ?
Ah bah oui, moi je pense qu'effectivement, quand je reçois justement des messages, ce sont souvent des gens qui ne sont pas des scientifiques, et c'est très bien, heureusement, c'est des gens qui me disent « Ah bah ça m'a donné envie de m'arrêter deux minutes, de faire une petite pause ». Je pense que pour les plus jeunes aussi, ça peut être assez sympathique de communiquer comme ça, cette passion pour les plantes. Moi c'est vrai, j'ai eu la chance, je le disais au début, d'avoir un peu cette transmission-là par ma mère, et c'était effectivement... je trouve quelque chose qui est très émouvant parce que le fait de transmettre la beauté en fait, du monde à ses enfants, je pense que c'est le meilleur moyen de les encourager justement à protéger le vivant, à protéger la biodiversité. Donc les mousses, c'est un exemple parmi d'autres et je pense que moi, évidemment, je suis très fasciné par ces plantes. J'ai pas assez dit à quel point elles étaient bizarres aussi, à quel point c'était des véritables extraterrestres. Donc il y a quelque chose comme ça de très étonnant, de queer presque, c'est-à-dire au sens de vraiment de bizarre, d'étrange. Moi, elles me fascinent, mais on peut tout à fait, je pense, s'intéresser avec la même passion aux fougères, aux lichens. Il y a des gens qui font des choses formidables autour des lichens, autour des plantes. Et je pense que vraiment l'idée directrice du livre, c'était... Bah, ouvrez-vous, quoi, aux merveilles qui nous entourent, émerveillez-vous. Et ça, je pense, c'est la première étape pour ensuite pouvoir lutter et pouvoir s'engager et pouvoir protéger ces créatures, ces organismes absolument, absolument incroyables. Hein. J'ai pas donné l'exemple tout à l'heure d'une petite mousse, qui est une mousse très, très ancienne, qui s'appelle Takakia. Et alors, Takakia lepidosioides,
ouais.
C'est une mousse... là aussi, dont on a un petit peu parlé, parce qu'elle est menacée aujourd'hui. Elle vit dans les hauts plateaux de l'Himalaya, et elle est menacée aujourd'hui, alors qu'elle a traversé des centaines de millions d'années. Et donc cette mousse qui a absolument tout traversé est en train d'être menacée et détruite par l'être humain. Et je pense qu'il faut vraiment effectivement se rendre compte, à travers aussi cet exemple, à quel point les mousses sont précieuses et à quel point on doit lutter pour les protéger. Parce qu'elles sont... essentielle à la biodiversité.
Vous racontez l'histoire d'une mousse qui pousse sur des crottes de renard. C'est une mousse spécialisée sur les crottes de renard ?
Oui, c'est ce qu'on appelle les mousses coprophiles. Et donc elle ruse parce qu'effectivement elle va utiliser les odeurs de ces excréments sur lesquels elle s'installe,
ouais,
pour pouvoir se propager et être transportée ensuite par les... Voilà, donc les mousses ont tout un tas de ruses, elles sont très très intelligentes, et à partir de pas grand-chose, eh ben, elles sont de sacrées dures à cuire, de sacrées débrouillardes. Donc là aussi, j'aime bien cette image qu'il en faut peu pour être heureux, qu'il faut avoir un peu de soleil, un peu d'eau, de gaz carbonique,
et une
faire
crotte
la photosynthèse, voilà, un petit peu de crotte de renard, et puis qu'ensuite, on est capable de traverser les siècles comme ça, sans forcément avoir une sophistication, ou en tout cas avoir une sophistication qui est très différente et peut-être plus grande encore que les miracles technologiques actuels. Hein.
On va partir sur le parc national de la Vanoise, Olivier Liron, avec Thierry Delahaye qui est chargé de mission sur place et qui nous parle évidemment des mousses.
Niels, regarde, nous venons de recevoir des échantillons du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris.
C'est super.
En comparant toutes les données historiques qui figurent sur ces récoltes, grâce aux résultats de cette étude, nous connaissons un petit peu mieux maintenant cette espèce artico-alpine, donc une plante qui ne vit aujourd'hui que dans les régions arctiques et dans les régions les plus froides des Alpes. Toutes les données accumulées vont nous permettre de suivre l'évolution des populations dans le contexte du réchauffement climatique, et faire en sorte que les milieux de vie de cette plante et d'autres puissent être préservés le plus durablement possible.
Voilà, la mousse, sentinelle du climat, hein, qui peut aussi avoir un rôle précieux aujourd'hui dans le cadre de la crise écologique, Olivier Léon.
Oui, complètement. J'ai pas assez parlé de cet aspect-là. C'est-à-dire que vous avez une mousse, par exemple, qui est la Funaria hygrométrica, la funaire. Alors, c'est une, on l'appelle la mousse de feu aussi, je crois, parce que c'est une mousse qui est capable de se développer sur des terrains incendiés. Et il y a d'autres mousses comme ça qui sont capables aussi de se développer sur des milieux qui ont été touchés par de la radioactivité. Donc, c'est très intéressant. Et il y a pas mal d'études scientifiques sur cette mousse, la funaire, qui aurait une capacité de stocker du plomb.
Oui.
Et donc, on envisage, sans doute en laboratoire pour l'instant, il faut voir effectivement si ça marche à grande échelle, mais en tout cas, on étudie, je trouve ça très intéressant, parce qu'il y a sans doute beaucoup, beaucoup, beaucoup à découvrir, vraiment, pour le coup, de manière... De la recherche fondamentale, de la recherche scientifique, il y a énormément de secrets à découvrir encore sur la mousse. Donc cette mousse aurait peut-être une capacité dépolluante. Par ailleurs, et l'enjeu, j'insiste sur vraiment l'enjeu du réchauffement climatique, c'est-à-dire que ces tourbières qui sont des incroyables bibliothèques du vivant, parce que vous savez que dans la tourbe, vous pouvez retrouver parfois des restes de squelettes préhistoriques, etc. Donc ce sont des bibliothèques qui permettent de dater comme ça et d'étudier l'histoire de la vie. Et en même temps, sont des bombes à retardement, parce que tout le carbone qui est stocké dans ces tourbières
est relargué.
Est vraiment une source, un enjeu extrêmement fort. Donc le stockage de l'eau aussi, leur capacité à stocker de l'eau, on va en avoir de plus en plus besoin.
Ouais.
Donc dans la fameuse guerre de l'eau qui est en train de se jouer, ces habitats-là que sont les tourbières, ils sont quand même des habitats cruciaux. Et c'est étonnant qu'on soit parti comme ça de quelque chose qui est très quotidien, finalement de l'émerveillement presque enfantin que moi je peux avoir et que beaucoup de gens peuvent avoir. Là, on voit bien dans les extraits qu'il y a beaucoup de choses. Et moi, j'invite vraiment tout le monde à essayer de participer à ces sorties-là. Et on voit bien qu'il y a un intérêt croissant. Et je pense que cet intérêt-là, il est super important.
Je crois que vous nous avez convaincus, voilà. Olivier Liron. Il paraît que vous avez été un des meilleurs candidats de questions pour un champion. C'est vrai, ça?
Oui, bah, ça se sent un petit peu, je pense, dans mon attrait pour des sujets un peu en apparence bizarres.
Est-ce que vous aviez eu des questions sur les mousses, d'ailleurs? Vous vous en souvenez ou pas?
Je me souviens avoir évidemment eu une question absolument décisive.
C'est
qui
vrai
ne portait pas sur les mousses, mais qui portait déjà sur la botanique.
Ouais,
et il se trouve que la question, je m'en souviens encore, était quel arbuste dont le nom scientifique est Ribes rubrum. Il se trouve que le Ribes, ça nous éloigne des mousses, mais c'est le groseillier ou le cassissier.
Et vous le saviez ?
Et évidemment, la groseille était la bonne réponse, dont j'avais effectivement, grâce au quand même à une fréquentation de la botanique, pu gagner à question pour un champion. Alors, si j'en parle pas dans le livre, j'en parlais dans un livre précédent, mais je crois que oui, il y a vraiment un jeu, c'est marrant que vous parliez de ça, il y a vraiment un côté jeu, je pense qu'on n'est pas obligé d'être un grand scientifique, même si évidemment, moi je les ai lus avec admiration, je les écoute avec admiration. On peut simplement être un amoureux du monde qui nous entoure et essayer de l'aimer, essayer de le comprendre. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment à portée de tout le monde et j'espère que le livre est relativement accessible et qui permet effectivement de commencer à s'y intéresser pour ensuite approfondir.
Le pari est réussi, je vous le confirme. Olivier Liron, vous qui publiez Éloge des mousses, petit ouvrage succulent aux éditions Rivage. Merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui.
Merci beaucoup.